des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. » Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et il dit « Voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Or, ça, paraissons, et ici même, confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. » Alors, c'est un texte éminemment dense, fameux, et mon propos ne sera pas d'en élucider l'énigme. C'est un texte, par bien des aspects, très énigmatique. Notamment la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils pourraient tout réussir si on les laissait faire. C'est un texte donc par beaucoup d'aspects qui est énigmatique. Donc mon propos va être circonscrit, ça va être d'apporter des éléments qui permettront de cadrer, disons, la signification ou certaines des significations fondamentales à mes yeux de ce texte. Et je vais m'intéresser notamment à ce que, dans une certaine tradition, on appellerait le remez. C'est-à-dire que, vous savez, il y a le pshat, le remez, le drash et le sod. Alors le remez, certaines traditions, le remez, c'est une allusion, et c'est une allusion à l'histoire, aux événements historiques. Or, c'est un texte qui, sous cet angle-là, est évidemment... l'histoire est fondamentale. En ce sens qu'il y a des éléments dans le Chumash qui font évidemment référence à l'histoire. Par exemple, quand on dit Pharaon, ça fait allusion à l'Égypte pharaonique, c'est clair. Ici, la tour de Babel, ça fait référence à une tour et à qui ont existé historiquement. Donc, je vais m'intéresser à ce point, la référence à l'histoire, pour éclairer, d'une certaine manière, le texte. Je vais quand même dire quelques mots du texte en tant que tel et de la lecture que je vais proposer. C'est que, notamment ce texte, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il est, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, le paradigme d'un certain progressisme anti-judaïque. Pourquoi ? Eh bien parce que, on peut faire une lecture de ce texte qui serait la suivante. C'est que, au fond, d'emblée, ce projet de la tour de Babel est un projet éminemment progressiste et émancipateur. Pourquoi ? Parce qu'il est fondé sur le fait que l'homme dit à son prochain « Allons, bâtissons ». Et que ça, c'est quelque chose de très, très singulier dans l'histoire, d'abord dans l'histoire de l'humanité, et aussi dans le texte biblique, en ce sens que c'est un projet libre. C'est la libre volonté de chacun. A priori, ça se présente comme ça. C'est pas un projet esclavagiste. C'est pas coercitif. Ça se donne comme une libre initiative partagée collective. Collectivité qui est évidemment sous le signe de l'unité. Unité d'un langage, unité d'une parole, unité d'un projet. Et ce projet donc de cette humanité autonome va envisager d'ériger une tour qui va vers le ciel, évidemment, pour s'affranchir de cette soumission à un divin, si vous voulez, qui écrase l'homme de sa transcendance. Alors, sous cet angle-là, évidemment, la réponse du Dieu biblique est évidemment, alors là, éminemment réactionnaire, puisqu'évidemment, ce qu'il craint, c'est cette humanité qui s'affranchirait et qui existerait de manière autonome. Ce serait l'argument d'une hétéronomie, ça, dictatoriale, arbitraire. Alors, cette lecture-là, elle se trouve que, alors dans la tradition des francs-maçons, par exemple, il y a une équivoque, une ambiguïté entre une tradition qui reprend la lecture monothéiste notamment chrétienne aussi, sur l'idée que l'argument, c'est que il y a une démesure, il y a un orgueil de l'humanité que le Dieu vient, vient remettre les choses à leur place pour bien imposer son autorité au regard de cet orgueil humain. Mais il y a aussi l'idée que Nimrod, puisque Nimrod est à l'origine, on voit dans le texte précédemment, je vais revenir sur ce contexte, Nimrod serait à l'origine de ce projet. Nimrod est le premier constructeur. Donc il y a aussi, dans la tradition franc-maçonnique, une positivité à Nimrod et à ce projet de construction. Par ailleurs aussi, je vous donne un exemple, mais vous avez dans les œuvres posthumes de Spinoza, donc quand elles ont été éditées, elles ont été éditées avec une préface de Jarig Gels, qui était donc un protestant dans les courants protestants rationalistes. Et Bernard Potra, un grand spinoziste, un grand commentateur et traducteur de Spinoza, qui redécouvre en 2017 cette préface qui est éditée chez Alia et qui en introduction donc découvre en fait, parce que dans la préface Gels veut démontrer à quel point la philosophie de Spinoza est ancrée dans le christianisme et dans les évangiles, évangiles qui seraient finalement une sorte de rationalisme qui viendrait émanciper, et notamment de la loi juive. Avec le formule Potra, en disant... Donc ce que signifie proprement la nouvelle alliance consacrée par Christ... C'est donc la rupture, et dit Gels, l'accomplissement ou perfection de l'ancienne alliance contractée par Moïse, c'est-à-dire la fin du salut par l'obéissance et la loi, la fin du salut par l'obéissance à la loi et à la lettre de l'écriture, au profit du salut par les idées purement intellectuelles. C'est donc, pour le dire brutalement, l'adieu d'abord au judaïsme, religion de la loi divine. L'intelligence de la loi signe l'arrêt de mort de l'obéissance à la loi. En ce sens-là, cet argument que l'on potera. Découvre, qui l'enchante, si vous voulez, on peut faire la lecture, on voit comment le texte donne prise à cette lecture-là, au sens où vous voyez, une humanité qui devient autonome et qui veut s'affranchir de l'hétéronomie, et le geste du Dieu est précisément de faire obstacle à cet affranchissement. Mais c'est cet affranchissement qui est marqué d'une positivité. Alors, ce que je vais... montrer, c'est à quel point cette lecture-là est à la fois significative, intéressante, et à quel point elle, évidemment, elle est inconsciemment, elle dit beaucoup de choses, consciemment ou inconsciemment, parce que ce que le texte dit, c'est à quel point ce projet qui se donne comme affranchissement était un projet d'aliénation. Voilà. Alors, évidemment, dans le texte, la tour de Babel est opposée à quoi ? Au rêve de Jacob. Selon le texte fonctionne très clairement. On voit, il y a d'un côté la tour de Babel, de l'autre, le rêve de Jacob. Le rêve de Jacob, donc cette échelle qui rejoint le ciel et la terre, et où, par lui, hein, par Jacob, à la fin, Dieu dit, seront bénis les nations. Donc, vous voyez, la dispersion à côté renvoie à la manière dont ces nations seront bénies par Jacob. Alors, pour vous introduire donc à cette lecture du point de vue du Rémez, je vais donc j'ai apporté des livres d'histoire de la Mésopotamie, de la critique biblique, des choses comme ça. Et... D'abord, dans Le Monde de la Bible, qui est un livre de recueil d'articles d'archéologues et d'historiens, au sujet il y a deux textes sur la tour de Babel qui sont très intéressants, et un de Marvin Powell, qui dit notamment que dans les grandes villes de Mésopotamie se dressaient des temples-tours hissés sur des plateformes surélevées. Ces tours atteignaient des hauteurs considérables pour l'époque, en particulier celle de Babylone. On comprend qu'elle ait frappé les imaginations et que la tour de Babylone soit devenue, dans la Bible, le symbole de la démesure. Alors, à mon sens, ce n'est pas la question de l'imagination qui est en cause dans le texte biblique, mais c'est vraiment la question de la pensée. Et ce n'est pas tant le symbole d'une démesure que le symbole de la puissance impériale ou théologico-politique. Puisque l'épisode de la tour de la Babel est quand même dans le texte situé d'abord parce que ce projet de construction d'une ville associé à une architecture monumentale, c'est un élément dans l'histoire, un élément de ce qu'on appelle, si vous voulez, l'émergence du concept de civilisation. Et que cette question de la ville renvoie dans le texte immédiatement à Caïn, qui est le premier constructeur de ville. Et dans sa descendance, on voit aussi apparaître les éléments de la civilisation. Or, si dans le texte, et dans les textes bibliques, je ne veux pas le reprendre, mais je vous l'indique simplement, que il est marqué évidemment d'une négativité, puisque Caïn, c'est le meurtrier d'Abel. Donc, d'emblée, si, la construction de la ville, c'est en quelque sorte, du point de vue du déroulement du texte, il y a une suspicion. C'est-à-dire que ça renvoie à quelque chose de l'ordre de la violence. Cette violence, elle est soulignée parce que immédiatement, c'est dans ce qui précède immédiatement, vous avez les généalogies des trois fils de Noé, et concernant Ham, hein, vous avez Cush, et puis Nimrod. Nimrod qui est le premier Gibor, et le premier chasseur. Et on voit du commentaire de Rashi, et puis du long du texte, que c'est aussi le premier, celui qui fonde une royauté. Donc, articulation entre la construction de la ville et d'un pouvoir politique qui est fondé sur cette capacité de la chasse, comme on voit aussi dans le rapport à la différence entre Ésaü et Jacob. Ésaü, l'homme de la chasse, et Jacob, qui est l'homme de la tente. Que la chasse, c'est la capture, c'est le rapport d'appropriation, de prédation. C'est-à-dire que c'est un rapport de culture, de civilisation, mais dont le noyau est prédateur. Et la chasse, c'est aussi la chasse de l'être humain. Donc, quand on parle d'un projet de construction de cette ville et de cette tour, Migdal, qui d'ailleurs, en hébreu, Migdal, c'est aussi une dimension de forteresse, on voit d'emblée toute une chaîne depuis Caïn jusqu'à Nimrod qui situe ce projet-là dans la continuité d'un projet de civilisation dont le noyau est prédateur, il est violent. Alors, ceci dit, je reviens aux références historiques. Et je reviens sur le texte de Powell qui dit « Si l'on fait abstraction des inévitables différences, ces temples se présentaient tous comme des tours de briques à étages superposés, à la façon des degrés de la pyramide du pharaon Djoser. Leur but avoué était d'atteindre le ciel, d'où leur nom Zikourat ou Zigourat, dérivé du verbe Zakarou, construire en hauteur. » Alors effectivement, il se trouve aussi que cette tour de Babel est en connexion avec le projet aussi des pyramides. Parce que les premières pyramides étaient à étages, avant qu'elle soit droite, comme ça, historiquement. Par ailleurs, la tour de Babel aussi, c'est une construction à étage. Donc, cette tour, c'est un modèle d'architecture monumentale et qui fait référence au pouvoir, à la verticalité du pouvoir. Et alors, notamment historiquement, ces tours, ce type de construction monumentale, on les retrouve également, et c'est trouvé dans la civilisation précolombienne. On trouve aussi au Cambodge. À tel point que pendant un certain temps, vous savez, dans l'histoire des sciences humaines, il y a la question de savoir, lorsque vous retrouvez des mêmes éléments dans des civilisations apparemment sans connexion, on se pose la question de savoir est-ce que c'est un phénomène de diffusion, c'est-à-dire une même idée s'est diffusée à partir d'une origine, ou est-ce que c'est un phénomène de convergence. Mais certains, comme Child notamment, ont pensé que c'était une tradition qui a pensé que c'était qu'en fait, les pyramides qu'on trouvait dans la civilisation précolombienne venaient d'Égypte. Mais dans un livre, l'ethnologue anthropologue Alain Testard sur ce problème-là, lui, évidemment, il va soutenir l'idée de convergence. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même type d'architecture monumentale, avec le même type de fonctionnalité, dans des civilisations sans connexion les unes avec les autres. Et se pose ici la question de quelle est la logique de convergence qui est à l'œuvre. Et Testard, sur ce point-là, lui, donc, explique « La pyramide à degrés allie partout dans le monde deux symbolismes puissants, celui de la montagne qui fait le lien entre le ciel et la terre et celui de strates superposées. Le fait d'être entre ciel et terre convient parfaitement à un régime despotique où le roi est conçu comme étant au centre du cosmos, ayant une double nature, divin parce qu'il participe du ciel où résident les dieux, mais ayant, comme la pyramide, une base solide sur terre. Ainsi le roi maya, d'après l'iconographie, le roi chinois, etc. ou le pharaon. La multiplication des strates marque l'éloignement entre les étapes du cosmos tout autant que la distance incommensurable qui sépare les êtres supérieurs, dieux ou entités, et donc rois, du commun des mortels. La pyramide à degrés est donc un bon symbole, un excellent symbole pour le despotisme. On peut en conséquence formuler une loi comme quoi une culture marquée à la fois par ces trois facteurs, despotisme, cosmologie étagée et tendance au monumentalisme, a des chances d'ériger des pyramides à degrés. Donc ça, c'est pour analyser la convergence. Alors, maintenant je reviens à la Mésopotamie, et dans un livre qui s'appelle « L'histoire de la Mésopotamie », qui est assez récent, de Pascal Buterlin, sur la question du rapport entre la tour et la ville, puisque ça aussi, c'est dans le texte, c'est une ville, une tour. Décrit le mot « cité mérite » que l'on s'y attarde quelque peu. Alors, pour les anciens Mésopotamiens, une cité, Uru en sumérien, ou Alum en acadien, était d'abord le lieu où siégeait une divinité, où les hommes s'assemblaient sous la protection de cette divinité. Ce lieu privilégié était un lieu d'épiphanie, mais certaines cités avaient un statut à part, notamment les cités saintes. L'idée qu'en certains de ces points, il existait un lien étroit entre le monde terrestre et le monde d'en haut a joué un rôle majeur dans le prestige de ces centres, à Nippur puis à Babylone, qui prétendit cumuler le prestige de toutes ces cités saintes. L'idée que certaines cités étaient aussi un lieu de pouvoir, combinant les prestiges religieux et politiques, a joué un rôle fondamental dans la promotion d'Uruk, littéralement en sumérien la ville, comme l'Urps désignait la Rome, la ville des capitales. Il dit plus loin, ces villes sont issues d'une longue période de maturation de centres proto-urbains nés au 5e millénaire avant notre ère. Ces centres ont été le creuset de la naissance des premiers États et des premières formes de bureaucratie qui ont à leur tour inventé littéralement la notion de ville comme relais de pouvoir, mais aussi comme espace d'une sociabilité fondamentalement distincte du monde rural. Vous voyez, le rapport entre la ville, la construction de la ville et la question de la construction du pouvoir. C'est ce que souligne, quelque sorte, le texte en évoquant Nimrod. Premier Gibor est le premier qui va fonder une royauté, notamment dans cette plaine de Shinar. Sur ce rapport entre ville et pouvoir, la convergence entre le texte biblique en ce sens-là et les anthropologues est d'autant plus frappante qu'aussi au terme de son livre qui s'appelle « Avant l'histoire » de Alain Testard, il écrit dans l'épilogue « Je tiens que la naissance des villes ne s'explique pas par des considérations économiques, mais s'explique partout par l'existence d'un pouvoir centralisé. » Donc c'est en fait, c'est pas la ville qui produit l'État, c'est l'État qui produit l'État. Pour le redire aussi, par ailleurs au sujet de Migdal, je vous disais, donc toujours Buterlin, signale le terme pour désigner la tour en hébreu, n'est jamais utilisé pour un monument religieux, mais est d'usage pour des ouvrages militaires, tour, porte fortifiée, voire une citadelle. Si le texte, vous voyez, par Migdal, ce texte articule, évidemment, dans le fait qu'il monte au ciel, ça évoque ces tours-temples, Mais le mot Migdal connote, voire dénote, la dimension politique, militaire qui est en question. Alors, par ailleurs, sur la question de la construction, le texte évoque la question de la construction des briques et du bitume, de la manière dont sont. De l'ouvrage en question. Et toujours donc dans l'histoire de la Mésopotamie, il écrit le complexe situé. Donc, il évoque dans la ville de Ur, et plus généralement la manière dont ces édifices et tours-temples étaient bâtis dans le complexe architectural de la cité. La célèbre ziggourat, donc la tour étagée, est une terrasse massive de briques crues et cuites de 62,5 mètres sur 43. Il s'agit d'une des grandes tours à étages bâties par Ur-Nammu et ses successeurs dans le sud irakien. Le cœur de la masse était composé de briques crues recouvertes de bitume puis d'un parement de briques cuites. Sur la face nord-est de l'édifice se dressait un système d'escaliers. Donc, on voit aussi dans le texte dans un texte d'un autre archéologue historien dans le monde de la Bible sur ces questions de briques. La brique et sa cuisson, donc sur un texte qui s'appelle la Tour de Babel. La brique et sa cuisson, le ciment, le bitume sont des termes qui attestent une bonne documentation sur les matériaux et les techniques de construction employées en Mésopotamie. Là, il fait référence au texte biblique. Il souligne que le texte ici signale une connaissance de la manière dont étaient construits ces tours. En Palestine, on construisait généralement avec la pierre et le bois. Hérodote donne un récit de la construction et une description de Babylone. On peut y lire notamment, donc dans Hérodote, « À mesure que l'on creusait le fossé, la terre qui en provenait servait à faire des briques. Quand on eut assez de briques, on les fit cuire dans des fours. Ensuite, avec du bitume chaud pour ciment et toutes les 30 couches de briques, un lit de roseaux intercalé, on fit d'abord le revêtement du fossé, puis le mur de la même façon. » Donc ça, c'est pour montrer que le texte fait vraiment référence à ces éléments historiquement attestés de construction de la tour et des tours-temples. Alors, par ailleurs, ce texte d'Hérodote est frappant parce que chez les égyptologues, il y a de grandes questions autour de la manière dont ont été construites les pyramides, notamment la grande pyramide de Khéops. Parce que vous avez, si vous voulez, des blocs béton qui font des dizaines de tonnes et parfois même des centaines de tonnes. Donc, la question, c'est comment ils ont transporté ça et comment ils ont taillé ça. D'autant que ces blocs-là sont extrêmement bien géométriquement taillés et s'emboîtent les uns dans les autres à la perfection. Et au regard des outils dont ils disposaient, ça paraît. Donc ça ouvre à toute une sorte de théorie multiple sur les. Mais donc il y a un chimiste qui s'appelle Joseph Davidovich, et qui lui soutient la thèse intéressante que, en fait, ils étaient moulés. C'était moulé. Ce qui explique la perfection géométrique et la capacité de faire des. Et ça règle la question du transport. Bon, c'est une petite parenthèse, ça veut dire que je suis frappé par la manière dont ce texte d'Hérodote donc, au sujet de la construction de ces tours pourrait, d'après Joseph Davidovich, s'appliquer à ce qui se passait, la manière dont étaient construits les tours, les pyramides d'Égypte. En tout cas, c'est on dit aussi que la tour de Babel est parente de la question de la pyramide égyptienne. De la même manière que les Bnei Israël adviennent à eux-mêmes dans le texte biblique en s'affranchissant du joug égyptien, et dans l'histoire, comme on sait, c'est en, vraiment Le retour depuis Babel, c'est aussi une sorte de sortie de Babylone. Alors, par ailleurs, comme je vous disais dans le texte biblique, le parallèle avec le rêve de Jacob est frappant. Et ce parallèle il est également confirmé par les textes et les analyses des historiens concernant les tours-temples du monde mésopotamien ou babylonien. Puisque dans l'histoire de la Mésopotamie, sujet de Babylone, que la ville de Babylone est au départ conçue comme un temple, une réplique en bas de son temple d'en haut, en un lieu intermédiaire entre l'absou et les cieux. Ça, c'est dans l'analyse d'un texte mythologique babylonien. Là, les dieux feront étape quand ils monteront aux cieux depuis l'absu et inversement quand ils descendront à l'assemblée. Marduk lui donne son nom, porte des dieux, le temple des grands dieux. Les dieux lui proposent d'exécuter son plan et de s'installer là, et pour servir les dieux à demeure, Marduk façonne l'homme. Donc Babylone, dans la mythologie babylonienne, est conçue comme la porte des dieux, là où les dieux montent et descendent. Et par ailleurs, dans le même livre, il signale, concernant le texte biblique, il fait lui aussi référence à la manière dont ça évoque le rêve de Jacob, et il dit « Jacob voit non pas une échelle, mais une rampe d'escalier sous l'âme, dont l'extrémité supérieure touche aux cieux. » C'est précisément cette rampe... C'est précisément cette idée qui s'avère omniprésente dans la désignation même des ziggourats, un lieu cosmique remarquable opérant un lien entre le ciel et la terre. La tour de Babel est aussi appelée très clairement Ete Menanki, maison du fondement du ciel et de la terre. C'était le nom que les Babyloniens donnaient à leur tour à étage, une ziggourate qui fut, pense-t-on, le modèle de la légendaire tour de Babel de la Genèse. Et dans le monde de la Bible, il y a une formule encore plus... Il traduit ça de manière aussi... Ce même mot, il le traduit... Donc le ciel rencontrait la terre, ce lieu-là, cette tour de Babel, cette tour de Babylone, et il dit son nom était Etemenanki, et le traduit temple appelé pierre angulaire du ciel et de la terre. Pourquoi j'insiste? Parce qu'évidemment, dans le rêve de Jacob, c'est la question de la pierre. Donc, pour montrer comment les textes des historiens concernant la tour de Babel confirme en quelque sorte la manière dont le texte biblique va agencer ces éléments d'histoire. Les agencer notamment dans l'opposition structurelle entre le projet de la tour de Babel et le rêve de Jacob. Il y a un conflit entre qu'est-ce que c'est que la maison, qu'est-ce que c'est que la pierre angulaire qui fait le lien entre la terre et le ciel. Quelle est sa signification? Comment on la conçoit? Comment on la pense? Et évidemment, il va s'agir de penser une alternative au projet théologico-politique de Babylone. Projet théologico-politique dont le texte biblique signale depuis Caïn jusqu'à Nimrod la violence essentielle. La violence essentielle. Et cette violence essentielle du projet théologico-politique babylonien et égyptien, encore une fois, elle est avérée historiquement. Elle est avérée historiquement. Elle est avérée historiquement notamment, alors je dis babylonien, égyptien et acadien. Elle est avérée notamment, alors Mario Liverani, qui est aussi un historien, archéologue italien. Et au sujet de l'Empire acadien, il y a des pages de l'impérialisme acadien, qui va notamment, 7e, 8e siècle, donc, attaquer le royaume d'Israël et le royaume de Juda, et déporter les Hébreux. Mais c'était une pratique, si vous voulez, c'était la pratique de l'Empire acadien. C'est-à-dire de mener des raids, qui pouvaient être ou bien des raids impérialistes, ou bien des raids des expéditions punitives, lorsque le tribut n'avait pas été versé, ou lorsqu'un État souhaitait s'affranchir de sa tutelle. Et la punition, c'était les déportations massives, et sur lesquelles on réinstallait des populations déportées d'ailleurs, pour pouvoir écraser dans l'œuf toute velléité de résistance ou d'autonomie. Il y a un texte de Liverani à ce sujet, que je vais vous lire, parce que vous allez voir qu'il met en lumière, de manière à mon sens vraiment forte, ce que le texte, sous cet angle-là, ce à quoi le texte peut faire allusion lorsqu'il parle d'une seule langue, une seule parole. Donc je suis vraiment dans le champ du remez ici. Je laisse de côté ce que peut être le pshat, le drash ou le sot, je suis dans le remez. Donc, concernant l'impérialisme des Assyriens, donc il dit qu'il y a une phase de destruction massive. Et puis une fois que la destruction a été faite, ils ont tout rasé, ils ont puni, ils ont tué, ils ont... Il y a phase de reconstruction. L'élimination du palais royal et de l'élite locale laisse la place à la construction d'un palais provincial assyrien destiné à accueillir un groupe de fonctionnaires assyriens. La déportation de la population locale vers la Syrie ou vers d'autres provinces assyriennes vient croiser la déportation de gens d'autres provinces vers la nouvelle province conquise. Ça, c'est... On déporte les gens et on vient réinstaller des gens qui ont été déportés d'ailleurs. Le but final est une assimilation linguistique, culturelle, politique, la plus complète possible, au point de transformer les vaincus en Assyriens. L'assimilation complète la conquête, transformant un royaume rebelle et étranger en une nouvelle province du cosmos dépendant directement du roi et du dieu Assur. Ainsi s'exprime Sargon II. Et là, il cite un texte donc des chroniques royales de Sargon II. Des gens des quatre parties du monde, de langues étrangères et de dialectes incompréhensibles, habitants des montagnes et des plaines, tous sujets de la lumière des dieux et seigneurs de tout, je les transportais sur l'ordre d'Assur, mon seigneur, et par la puissance de mon sceptre, je les fis devenir une seule langue et je les installais là, comme scribes et surveillants, je leur assignais des Assyriens capables de leur enseigner la crainte du Dieu et du roi. Oui, comment ici, là, une seule langue a signifié, par rapport à la dispersion et au langage incompréhensible, c'est la manière dont l'Empire assyrien écrase toute velléité de résistance et impose son ordre impérialiste dans la région. C'est une stratégie impérialiste clairement définie par le texte de Sargon. Par ailleurs, je me tourne vers un autre anthropologue qui, cette fois, n'est pas plus généraliste. C'est James C. Scott, dans Homo Domesticus, qui lui aussi écrit quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement, puisque concernant la basse Mésopotamie, il écrit que à partir de la dernière période du Ruk et pendant les deux millénaires suivants, donc de 3500 à 1500 et puis avant Jésus-Christ, la guerre ne visait pas tant la conquête de territoires que le regroupement de populations dans le noyau céréalier de l'État. Grâce au travail originel et minutieux de Seth Richardson, nous savons que la grande majorité des conflits armés de la région n'opposaient pas entre elles des entités urbaines les plus grandes et les mieux connues, mais qu'il s'agissait plutôt de guerres mineures menées par chacune de ces entités afin de conquérir les petites communautés autonomes de leur propre interland et d'augmenter leur population laborieuse et donc leur puissance. Les sociétés étatiques s'efforçaient de regrouper les peuples dispersés et non pacifiés et d'intégrer leurs clients non étatiques à l'ordre étatique par la force et la persuasion. Ce processus, observe Richardson, était un impératif permanent dans la mesure où les États subissaient un exode permanent de leur propre population à cause d'eux et au profit des sociétés non étatiques. Malgré les prétentions de l'État au contrôle administratif rigoureux de ces sujets, il devait constamment lutter afin de compenser les pertes dues à la guerre et la mortalité en s'efforçant de recruter, essentiellement par la force, de nouveaux sujets parmi les populations jusqu'alors non taxées et non réglementées. Les codes juridiques de la Babylone antique témoignent d'une préoccupation marquée à l'égard des fuyards qu'ils enjoignent de renvoyer sur leur lieu de travail et de résidence désignée. Ce texte montre comment, pour ces forces étatiques en construction, réunir les peuples et une force de travail ensemble était un enjeu crucial. Et que c'était l'enjeu de la violence, c'était ici, vous voyez, c'est la guerre comme étant, comme saisie de la force de travail, et l'empêcher aussi de partir. Alors Scott, ailleurs, signale aussi, concernant la Chine, que la muraille de Chine n'était pas seulement un mur visant à se protéger des nomades, des incursions nomades, mais également un mur visant à empêcher la force de travail de fuir. Donc ça, vous voyez ce que décrit ce texte de Scott, et c'est décrit de certaine manière, lorsqu'on parle de Nimrod comme étant le chasseur, hein, le fondateur d'une royauté et qui est un chasseur, c'est une allusion, en sens, à ces réalités historiques. Et enfin, dans l'histoire de la Mésopotamie, là aussi, il cite un cylindre de fondation qui est conservé au Louvre et qui montre que la Zagourate a été construite progressivement. Donc, il y a eu d'abord, sur plusieurs générations, sous plusieurs règnes, Nabopolassar et puis Nabucodonosor. Et ce cylindre, donc, qui est au Louvre, indique les textes suivants. Les peuples nombreux que Marduk m'a confiés, dont le commandement m'a été confié par Shamash, la foule des peuples et la totalité des nations, de la mer supérieure à la mer inférieure. J'offris comme homme de corvée à Shamash et à Marduk pour construire Etemenanki, la tour, et je leur fis porter des briques. Oui, totalité des nations, foule des peuples, totalité des nations, homme de corvée pour construire. Et construire ces briques, évidemment, au passage, tous en tête, qu'au début de l'Exode, de l'Utchemot, hein, les Hébreux, texte parle de Avodakasha, Bechomer ou Belveni. Chomer et Lévenim, c'est briques, c'est mortier, ce sont les termes qu'on retrouve dans le labeur des Hébreux à servir en Égypte. Qui fait donc le lien entre la construction de la tour et la construction de ce qu'on peut supposer être évidemment les pyramides. Donc vous voyez comment cette tour de Babel qui réunit le ciel et la terre, hein, cette porte du ciel, cette unité, c'est une seule langue, tous ces éléments-là, à la fois dans le texte et quand on se tourne vers les livres d'histoire, on voit bien la logique de cette... De cette puissance comme puissance despotique, impérialiste, et qui vise à capturer le Adam, le capturer. Et qui est en opposition dans le texte au rêve de Jacob. Donc, une fois que j'ai disposé un peu ces éléments, ce qu'il faut, c'est, je vais essayer de proposer des éléments d'interprétation, de lecture. c'est quel est ce... voyez, disons un premier temps que ce texte peut se donner comme un projet, au fond, de liberté. Des hommes qui se réunissent en accord, parlent une seule langue, ils se comprennent, ils ont un projet collectif d'ascension vers le ciel, ça me paraît fantastique. En même temps, le texte fait finement allusion à la fois dans sa logique intrinsèque, puisque, parce que, je vous dis, depuis Caïn jusqu'à Nimrod, on voit bien, le lecteur attentif voit bien apparaître, est conscient que c'est, on a affaire ici à un projet qui est fondamentalement violent. Et donc maintenant, en lisant ces textes, qu'est-ce que dit ce texte du projet social en question ? Ben, je crois que, en fait, ce qu'il dit est c'est dit que leur projet, c'est on va construire. On va construire une tour. C'est quoi une tour ? C'est on va mettre une brique, par-dessus on va mettre une autre brique, puis on va mettre une autre brique, puis on va mettre une autre brique, puis on va mettre une autre brique. C'est comme ça qu'on monte au ciel. On met une brique, puis encore une, puis encore une, puis encore une, puis encore une, puis encore une. Ce que décrit ce projet-là, c'est un automatisme social. C'est un automatisme de répétition. C'est un enrégimentement mental et qui repose sur la compulsion à la répétition. Ce qui, selon Freud, c'est l'instinct de mort. L'automatisme de la répétition, c'est l'instinct de mort. C'est compulsif. Il n'y a pas de hauteur. La hauteur, elle est conséquence de l'accumulation, comme ça, d'une pierre par-dessus une pierre. Fondamentalement, c'est un projet. C'est l'acte, l'humanité qui se révèle là, elle est compulsive. Et c'est le signe d'un enrégimentement. Et donc d'un assujettissement. C'est quelque chose, vous voyez, de grégaire, au fond. Mimétique et grégaire. Le rêve de Jacob en opposition, qu'est-ce qu'il dit très simplement d'abord ? Les éléments du rêve de Jacob, très simplement, c'est d'abord c'est le rêve d'un individu singulier. Et ce rêve, dans le texte de Jacob, il aboutit au projet de quoi ? Bah, d'une maison. C'est construire une maison. Vous avez d'un côté le rêve et la maison, et de l'autre l'automatisme social, l'enrégimentement, et migdal, vie et migdal. Et sur cette notion de maison, dans le texte, vous l'avez... faire entendre... Vaïkra Hashem comme à Bethel, l'appela ce lieu maison de Dieu. Et donc il fait le vœu à Even Azot, cette pierre sur laquelle il a posé sa tête. À Cher Samti Matseva, donc il en a fait son... Est-ce qu'il l'érige en hôtel ? Yé Bet Eloké. Ça, je veux dire. Yé Bait. Alors... Là-dessus, je voudrais vous quand même. J'ai un texte sur ces questions de maison. Je fais allusion. Je voudrais vous citer un passage, une phrase de fin de partie de Samuel Beckett. Je rentre pas mais donc fin de partie de Samuel Beckett, si vous voulez, c'est une pièce, on pourrait dire, sur la fin des temps. Comme dans les versets qui dit Ketsiamim, la fin des temps. Puis c'est la fin des temps. Et donc il y a. âme dit, la pierre, il y en a un qui est assis et l'autre qui regarde par la fenêtre. Et donc il y en a un qui regarde et se demande qu'est-ce qu'il regarde. Et âme dit qu'il doit se regarder la pierre levée. Il dit, ta vue s'améliore. Il dit, il regarde la maison sans doute avec les yeux de Moïse mourant. Il regarde la maison sans doute avec les yeux de Moïse mourant. Alors cette phrase de Beckett m'a toujours frappé parce que ce que je veux dire, c'est que Moïse mourant, comment c'est, il regarde Eretz Israël. Et que Beckett dise ici, il regarde la maison avec les yeux de Moïse mourant, me semble qu'il touche quelque chose d'essentiel, en ce sens que il y aurait au niveau du drache que Eretz Israël, la terre promise, c'est quelque chose comme de l'ordre de la maison. Alors en quel sens? En ce sens que je crois que une des clés d'interprétation de ce texte, à mon sens, la tour de Babel et du rapport avec cette opposition entre le rêve de Jacob et le passage à la tour de Babel, c'est une notion talmudique qui est fondamentale. C'est la différence entre Reshut Arabim et Reshut Hayachid. Évidemment, si on traduit Reshut Arabim par espace public et Reshut Hayachid par espace privé, c'est catastrophique, c'est un désastre. Donc il faut revenir à la lettre. Reshut Arabim, c'est le domaine du multiple. Reshut Hayachid, c'est le domaine du singulier. Le domaine du multiple, dans le Talmud, c'est son premier dapim de traité Shabbat, le Reshut Arabim, a une hauteur minimale qui est de 10 tfachim, et ce qui correspond à peu près, grosso modo, à la moitié du corps. Oui, du sol jusque-là, vous avez le Reshut Arabim. Le Reshut Hayachid, c'est jusqu'au ciel. Ad HaShamayim. Et cette notion, elle est fondamentale dans tout le Talmud, notamment dans le traité Shabbat, elle fait jouer beaucoup, beaucoup de choses, mais si on prend vraiment les choses à un niveau très élémentaire, ce que ça signale, c'est que le Reshut Arabim, c'est quand on dit c'est au niveau des jambes, le régel, c'est-à-dire que c'est l'animal, il a sa tête au niveau des jambes. L'animal, il a sa tête au niveau des jambes. Il a sa tête dans le Reshut Arabim. C'est en ce sens-là, c'est le lieu du passage et il est de quelque chose. Vous êtes pris dans un mouvement. Vous êtes comme vous êtes dans le métro, ben vous devez avancer, vous devez avancer dans le flux. Si vous commencez à être un petit peu pas dans le flux, ben vous gênez, vous créez un problème. On doit aller dans le flux. Et c'est logique, c'est normal. Sinon, bon. Mais c'est ça le Reshut Arabim. Vous êtes en avant. Le Reshut Hayachid, c'est le domaine du singulier. Et ça touche. Donc en ce sens-là, vous voyez bien comment, si vous fondez votre existence dans le Reshut Arabim, vous avez la tour de Babel, et si vous dites que la fondation, c'est dans le Reshut Hayachid, alors là, vous êtes du côté du rêve de Jacob. Alors, ce que ça dit aussi, c'est, à mon sens, c'est qu'il y a un élément du texte qui est très frappant, c'est qu'ils disent qu'ils vont se faire un nom. Et se faire un nom de cette manière-là, c'est évidemment, puisque c'est se faire un nom collectif. C'est comme si l'existence du nom ne valait que collectivement. Donc c'est en fait réduire le nom à quelque chose d'anonyme, puisque le nom doit d'abord être de l'ordre du singulier. Alors en ce sens-là, il me semble que Babel, ces briques, c'est la matière première de la construction au-delà de ces briques, c'est l'être humain. C'est l'être humain, en quelque sorte, qui devient la matière première de la construction de la tour de Babel et de ce projet. L'être humain, il est réduit à être matière première de cette construction sociale. Comme le dit le texte qui se trouve au Louvre, c'est là, la foule des peuples et la totalité des nations, hommes de corps. Et on peut penser au Léviathan de Hobbes, dans cette image-là, vous savez, vous avez ce corps du souverain composé d'une multitude d'hommes. Et à cela s'oppose donc Jacob et la question du Reshut Hayachid, de la maison comme, et surtout de la question de ce qu'est construire l'humain. Construire l'humain, ça suppose d'abord de s'arracher, de s'affranchir, de se soustraire à cette assignation. En ce sens-là, la parole qui est immédiatement antinomique avec le projet de la tour de Babel, c'est évidemment ce qui va suivre, c'est-à-dire c'est la parole adressée à Avraham, Avraham, Lech Lecha. Lech Lecha, va pour toi, c'est s'entendre d'abord de s'affranchir de l'assignation que représente la tour de Babel et ce projet-là. C'est s'en arracher. Dans la suite du texte du rêve de l'échelle, Jacob, immédiatement après, il va donc vers Haran, parce qu'il fuit Ésaü, descendant en quelque sorte descendant spirituel de Nimrod. Il va vers Haran, et là, il y a des bergers qui attendent auprès d'un puits où il y a une grosse pierre. Et il leur demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et en gros, ils attendent que tout le monde soit réuni. Et là seulement, ils déplacent la pierre pour faire boire le troupeau. Mais comme tout le monde n'est pas réuni, ils attendent, ils ne font rien. Et là vient Rachel. Et Jacob, il voit Rachel, qui arrive avec le troupeau. Et qu'est-ce qu'il fait Jacob ? Il prend la pierre et il la déplace. C'est-à-dire parce que Jacob, dans le texte, c'est pas un costaud. Et ça, c'est le gars poilu, viril et tout. Jacob, lui, il est dans les jupons de sa maman, quoi. C'est vraiment pas un costaud dans le texte. Qu'est-ce qui fait, là, il y a cette force? Il me semble qu'une des significations, c'est que justement, Jacob, c'est celui qui n'est pas enrégimenté. Donc, il a cette capacité d'action singulière. Il a cette force de caractère-là, il a cette singularité-là. Ce n'est pas une question de force physique, c'est une question de force d'esprit, de force mentale, d'humanité. Il est porteur d'une sourate Adam. Ce n'est pas une brique dans une construction sociale. C'est un sujet, on pourrait dire. L'autre, évidemment, l'autre antinomie, qui est liée, c'est que le rêve de Jacob, la pierre en question, la maison dont je vous parle, c'est évidemment la construction du temple. Construction du temple qui, début de la paracha Terouma, va être, elle, pour le coup, aussi, vraiment, l'élément construction du tabernacle qui repose sur une libre volonté de chacun. Puisque chacun va librement faire don des éléments à partir desquels on va construire le temple. Et construction du temple, et toutes les parachotes difficiles, c'est tout, ce sont difficiles. Mais si à un niveau vraiment rudimentaire, auquel je me situe, ce qui apparaît très clairement, c'est qu'au regard de la construction de Babel, où je mets une brique par-dessus une brique, par-dessus par une brique, par une brique, ce que dit la construction du temple, c'est l'élaboration. C'est une élaboration. C'est un dispositif. On pourrait dire dans l'art contemporain, ça. C'est une élaboration de pensée. C'est pour ça que Betzalel et ceux qui sont, ce sont ceux qui ont Chochma, Bina, Reda. C'est une élaboration. Dispositif avec tous ces éléments différents. Vous avez le Kodesh HaKodashim, Parochet, Aaron, l'autel de l'encens, la table de proposition, candélabre, et tous ces dispositifs. Donc vous voyez bien, à côté, une mise en forme pensée pour accueillir un lieu qui soit profondément sensé, essentiel, qui soit lieu de la construction de la Tsurat Adam. Et de l'autre, l'enrégimentement, l'automatisme social qui fait de l'être humain une brique dans une construction sociale. Alors, ce que de la Parasha Terouma, le point, c'est que la haftara de cette paracha, et c'est que le rapport entre la haftara et la paracha est toujours à la fois, il n'est pas simplement d'illustration. Et les connexions sont toujours, peuvent être parfois Enfin, les connexions sont toujours à réfléchir. Et là, dans la haftara de la paracha Terouma, ce qui est intéressant, c'est que c'est la construction du temple par Salomon. Ce que dit le texte biblique ici, c'est que Salomon va instituer, faire ça, du biais de la corvée. Ce qui signale la différence avec le tabernacle. Parce que le texte biblique n'est jamais, vous voyez, aussi bien pour David que pour Salomon. On n'est pas dans le... Ce ne sont pas des textes qui sont dans la... Ce ne sont pas des textes de propagande. C'est problématisé. Et donc, il y a ici une difficulté. Difficulté qui va du reste être aussi soulignée par le Talmud, dans Sanhedrin, lorsqu'on voit le texte dit que l'apparition de Rome, comme étant après Babel, les Grecs, etc., un autre empire qui oppresse Israël. Il oppresse Israël parce qu'il oppresse la Tzourat Adam. Surgit lorsque Salomon épouse la fille du pharaon. Comme c'est signalé, voilà le danger que l'architecture monumentale charrie avec elle quelque chose qui vienne de l'Égypte. D'autant que la question de la couche, du lit et la question du temple est articulée. Elle est articulée dans le rêve de Jacob, elle est articulée à la fin de Bereshit lorsque on dit que Jacob se prosterne sur sa couche. Elle est articulée. Donc j'ai fait une paracha là-dessus dans la canette. Bon, c'est un sujet en soi, mais bon, là, je ferme la parenthèse. Donc, j'ajoute un point du texte et du commentaire, c'est que, comme vous savez, un des commentaires connus sur la tour de Babel, c'est que le projet était de se prémunir, puisque ça vient après le déluge, était de se prémunir du déluge. Cette hauteur-là, c'était visé à se prémunir du déluge. C'est-à-dire, c'est que Noé, comment Noé se prémunit du déluge? C'est la construction, donc, de l'arche. Et l'arche, c'est Tevet. Assez les Tevet. Tevet, l'intéressant, c'est que c'est aussi un mot. Vous voyez la différence entre se sauver du biais d'une architecture monumentale et se sauver du biais d'une arche qui est aussi un mot. Donc une chaîne de signifiants. Et le texte est dit, pour dire, intéressant, le verset, dans la construction de cette arche, hein, il y a mi bachutz, à l'extérieur tu le feras comme ça, et pour dire à l'intérieur, le texte dit pas mi bifnin, dit mi bait. On voit, à mon sens, signale la question du rapport aussi fondamental, la construction, l'enjeu de la construction, fondamentalement, c'est la maison. L'intériorité, c'est la maison. Et que l'aliénation, c'est une construction sans intériorité. Alors, je vais, à ce sujet-là quand même, puisque j'ai parlé de l'histoire, de la manière dont la tour de Babel faisait référence à ce projet, on pourrait dire totalitaire, très clairement, que celui d'aussi bien de Babylone que de l'Égypte. Et donc je vais faire un an des références historiques en sautant 3000 ans, voire plus. Et notamment, vous signalez ce texte, Notes d'hiver sur l'impression d'été de Dostoïevski, où il visite Londres, dans les années 1870. Et notamment, il écrit, voilà, la City, il visite la City avec ses millions et son commerce universel, le palais de cristal et l'exposition universelle. Il dit, oui, l'exposition est sidérante. Alors, Dostoïevski, il est critique sur la modernité occidentale. Et puis là, il écrit, vous ressentez cette force terrifiante, donc dans le Londres industriel, qui a réuni ici en un troupeau unique toute cette infinité de gens venus du monde entier. Vous ressentez cette pensée titanesque, vous ressentez que là quelque chose est atteint, qu'il y a là une victoire, un triomphe. Vous commencez même comme à avoir peur de quelque chose. Si indépendant que vous puissiez être, bizarrement, vous ne savez pourquoi, vous commencez à avoir peur. Ne serait-ce pas ici réellement l'idéal atteint, vous demandez-vous, ne serait-ce pas ici la fin, n'est-ce pas là réellement l'unique troupeau? Ne serez-vous pas obligé d'accepter ça au bout du compte réellement comme la plus vraie des vérités et de vous taire définitivement? Tout cela est si solennel, si victorieux, si orgueilleux que ça commence à vous oppresser le souffle. Vous regardez ces centaines de milliers, ces millions de personnes dont les grands flots s'écoulent ici, soumis du monde entier, des gens venus tous avec une seule pensée et qui se pressent sans bruit, obstinément et sans rien dire dans ce palais colossal, et vous sentez que c'est là que quelque chose s'est définitivement accompli, oui, accompli, terminé. C'est une sorte de tableau biblique, quelque chose sur Babylone, comme une prophétie de l'Apocalypse qui s'accomplit sous vos yeux. Vous sentez qu'il faut que l'homme puise beaucoup dans son éternel esprit de résistance et de négation pour ne pas se laisser prendre, pour ne pas se soumettre à l'impression, ne pas s'incliner devant le fait et ne pas adorer Baal, c'est-à-dire ne pas considérer ce qui existe comme son idéal. Et dans ce texte de Dostoïevski, il voit la tour de Babel dans le Londres industriel de la fin du XIXe siècle. Et puisque je suis dans le contemporain, on va être dans l'extrême contemporain, quelle est aujourd'hui la plus grande tour du monde? Eh bien, la plus grande tour du monde aujourd'hui, elle est à Dubaï. Elle est à Dubaï. Elle est 828 mètres. Elle a été construite donc à Dubaï en lien avec des architectes et un cabinet notamment américain. Et cette tour a été construite entre 2003 et 2010. Et évidemment, qui a les conditions de travail de ceux qui ont construit cette tour, vous le connaissez un petit peu. Mais enfin bon, et en 2006, ils se sont révoltés et puis compris que. Mais dans RFI, il y avait en 2006 un article, quand il y a eu révolte des parce que vous savez que ce sont des ouvriers immigrés qui travaillent dans ces pays du Golfe. Et donc il y a RFI, Dubaï, qui s'énorgueillit de plusieurs records, 16% de croissance économique en 2005, ou l'ouverture du premier hôtel 7 étoiles du monde, il possède un autre record qui est que 84% de sa population, estimée à 1,2 million de personnes, est immigrée. Sous-payés, mal logés et corvéables à merci, les étrangers viennent d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de Chine, des Philippines, du Sri Lanka, d'Afghanistan, de Syrie ou encore du Yémen. À leur arrivée, l'employeur leur confisque leur passeport en échange du contrat de travail et prend garde de les reconduire à l'aéroport dès la fin du contrat. Et dans le journal Le Monde en 2007, j'ai un extrait d'un article, lorsque, après avoir fait grève, ils ont dû reprendre le travail. Sous la menace, la contrainte, la peur, sans rien savoir pour la plupart des gains obtenus à la suite de leurs 5, 9, voire 11 jours de grève sur les chantiers de construction de Dubaï, en soldats résignés, ils ont remis leur uniforme de chantier pour ériger des tours toujours plus hautes et des marinas extravagantes. L'émirat et les promoteurs respirent, mais pour les 700 000 ouvriers venus d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh ou du Sri Lanka, les conditions de vie et de travail n'ont peu ou pas changé, justifiant pour les associations des droits de l'homme l'appellation d'esclavage moderne. Vous voyez, depuis le tour de Babel jusqu'à Dubaï, passant par le palais de cristal, il y a une sorte de continuité structurelle. Alors, dans le texte, quel est l'antitour? L'antitour, c'est le bêta-midrash. Le bêta-midrash, c'est l'antitour. C'est-à-dire que c'est le lieu de construction et de garde de la Tsourat Hadar. C'est le Beit HaMidrash. Et alors, l'autre élément que je veux signaler en conclusion, c'est que, évidemment, cette tour, depuis la tour de Babel jusqu'à la tour de Dubaï, hein, parce que le projet de la tour de Babel, c'est quoi? C'est avoir la plus grande tour. C'est moi qui ai la plus grande tour. Donc, la tour, c'est un symbole phallique. C'est le symbole, c'est le fantasme de toute puissance. C'est le fantasme de toute puissance. Au sens où Lacan disait que la femme, elle n'est pas toute. Alors, l'anti-fantasme de toute puissance, ce qui est antinomique, c'est que donc, Noé, au sortir de l'arche, la Teva, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un misbéar, une pierre, simple pierre. Et effectivement, les actes constructifs, en ce sens-là, architecturaux des patriarches, c'est de construire, ériger une pierre, construire un misbéa, un hôtel. Tel, je dirais très simplement, sans entrer dans la complexité de la question, mais que c'est au fond, sacrifice, c'est une manière de signaler que ma jouissance ne fait pas loi. Disons comme ça, simplement. Et le point, c'est que à la fin de la paracha, Itro, donc juste donc après l'énoncé des 10 paroles, vous avez ce concernant l'autel, vous avez ce passage qui dit que donc l'autel tu le feras en Adama, en terre, et que si tu le fais en pierre, tu ne le tailleras pas. Et le dernier verset de la paracha dit « Velo ta'ale bema'alot al misbiri » et tu ne monteras pas bema'alot sur mon autel, c'est-à-dire tu ne monteras pas, on pourrait dire, en hauteur étagée, tu ne monteras pas en hauteur, tu ne monteras pas. Un peu comme ces escaliers, vous voyez, en hauteur qui ne montera pas. Pourquoi ? Asherlo tegale ervatra ala. De sorte que tu ne dévoiles pas ta nudité au sens de l'obscénité. Erva, c'est l'obscénité. Tu dis que tu ne dévoiles pas ton obscénité dessus. Alors le sens, si vous voulez figurer concret, contextualiser, c'est genre. Quand on monte comme ça, par rapport à ceux qui sont en bas, vous montrez vos dessous, vous exposez vos dessous. Mais plus fondamentalement, c'est que ça évoque et cette herva, cette obscénité, c'est l'architecture monumentale de la tour de Babel en tant que telle, qui est obscène. C'est ce projet-là, c'est cette violence-là qui est obscène. Et cette obscénité, elle renvoie aussi dans le texte à Ham, qui dévoile la nudité de Noé, qui la rapporte à ses frères extérieurs, qui en fait, quelque sorte, c'est-à-dire que le fondement qui vient, son grand récit à Ham, c'est que le fondement de l'existence humaine, il est obscène. Et Ham, donc, dont Nimrod est le descendant. Dont Nimrod, le constructeur, est le descendant de Ham. Donc celui qui vient annoncer le fondement de la socialité, le fondement de l'histoire, le sang des sangs. C'est obscène. C'est une pure obscène. Alors pour conclure, j'étais du côté du Rémès, donc j'ai porté, donc je conclue sur un passage d'un poème de Paul Celan, de La Rose de Personne, comme étant ce qui, j'appellerais, mais c'est un peu. Je ne vais pas le développer, mais je vais vous faire entendre ce que pourrait être une anti-tour de Babel. C'est la fin d'un poème que vous trouvez dans La Rose de Personne, qui commence avec toutes les pensées, je suis sorti hors du monde. À la dernière strophe, sans peine, ton sein s'est ouvert, paisible, un souffle est monté dans les terres, et ce qui s'est nué, n'était-ce pas forme et sorti de nous, n'était-ce pas, pour ainsi dire, un nom. Nom nameux, NOM. Donc, où ce rapport au féminin, c'est la question de l'ascension et de la question du nom, est une sorte d'antithèse à la construction de babylienne. Donc, disons que voilà, j'ai un peu disposé les éléments que je souhaitais apporter pour donc baliser la lecture du texte et non pas en proposer une élucidation, ce qui est au-delà de mes forces, mais simplement voilà, apporter des éléments de réflexion sur le sens de ce texte.
Aux questions, j'en profite juste pour souhaiter la bienvenue au aux nouveaux participants et espérant qu'ils se fassent, qu'ils deviennent fidèles.